Et si nous sommes dans la salle des palettiseurs, là. Donc, ça, tous les fardeaux étaient palettisés automatiquement. Et là, nous avons les fardeleuses. Des fardeleuses automatiques, ouais.
Ça fait triste, hein.
Moi, la dernière fois que je suis venu ici, on avait fait un concert. Ouais. Pendant la grande grève Le Vert. Ah ouais, on avait fait une estrade.
Avec un petit groupe.
Un couscous.
Ouais.
Les planches du ventre.
Les tables disposées
On avait fait un grand banquet.
En demi-cercle, pourquoi? Ouais. Ah, c'était magnifique, ouais.
Des camarades qui jouaient de l'orchestre, quoi. C'était des camarades de l'usine qui faisaient la musique. On a dansé, enfin, c'était une journée dans le mouvement, ça a été
inoubliable,
une journée vraiment chaude, chaleureuse, quoi. Un conflit, c'est pas toujours triste, faut pas croire, hein. On a eu des périodes, bon, bah, c'était dur, mais en même temps, on était tellement ensemble, on était toujours ensemble, on passait nos journées complètes ensemble, on partait en ville, dans l'île, on partait à Rotterdam, on partait à Bruxelles, à Waterloo, on est allé partout pour demander des comptes à Unilever, et puis pour leur dire, mais il y a aucune raison qu'on soit licencié. Ce qui fait que le fait d'être toujours ensemble, de se regrouper comme ça, bah, on avait des moments de plaisir énormes.
Mais il y avait toujours cette cohésion, quoi. Qui nous permettait de tenir la tête haute, quoi. Vous savez, c'était bien, on avait bien fait ça, quoi.
La tête haute, ça pourrait s'appeler comme ça aujourd'hui. La tête haute, les lessivés du Nid de Verre à Haubourdin, dans le nord, près de l'île. Vous vous souvenez, on les a déjà rencontrés à plusieurs reprises dans leur usine. Ensuite, le 21 octobre dernier, 2003, lors d'une visite du président de la République à Valenciennes, on les a retrouvés. Et là, ces jours derniers, leur usine était, il y avait une vente aux enchères du matériel de l'usine. On est retourné les voir à nouveau, voir comment, qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ils se battent, comment ils résistent, parce que ils ne veulent pas plier, ne pas plier. Les lessivés et recalcitrants pensent qu'il faut effectivement sortir de cette histoire la tête haute. C'est pas seulement des indemnités qu'ils demandent, c'est de la dignité qu'ils réclament pour eux et les leurs, et aussi de la justice. Un combat désespéré, peut-être pas tant que ça. On va voir où ils en sont, c'est jusqu'à 18h sur France Inter. Alors on est au moment où la vente aux enchères va commencer. Auparavant, les visiteurs, les acheteurs, se présentent dans l'usine, dont les portes sont ouvertes ce jour-là. Et bien sûr, nous y étions avec Thierry Scharf lui-même en personne.
Ouais, j'ai repéré un truc.
C'est des acheteurs?
Ouais, sûrement, ouais.
Costume, cravate, la petite attaché case.
Il y a le principal et le banquier derrière, avec la sacoche. Oh, ça va commencer à arriver maintenant. Oh, il y a des trucs intéressants là-dedans quand même. Il y a des belles machines. Il y a un bel outil de travail à l'intérieur, malgré tout.
C'est cet après-midi la vente aux enchères, hein.
Normalement, oui, c'est Marc Ambareuil sur diapo ici, visite, et après les enchères sont là-bas.
On est de bon matin là, et vous venez toutes les semaines là, on est devant l'usine.
Tous les lundis on se rassemble.
Tous les lundis.
Tous les lundis devant l'usine, on se rassemble pour faire le point de ce qui a été fait la semaine d'avant et pour informer les salariés de l'avancée sur notre sort.
Le 16 juin, ça fera 10 mois qu'on est en congé de conversion.
Au mois de mars, le redressement et 17 juin, la liquidation. Donc ça fait quand même plus d'un an qu'on est sur le carreau, quoi.
C'était des grandes marques connues comme Skip, Homo, Persil,
Coral,
comme Sif, Vigor. Qu'est-ce qu'il y avait encore les produits de vaisselle comme Lux, Cajoline, ouais, Cajoline.
C'est combien l'origine?
Je suis rentré en 71, le 5 avril 71 exactement, on était à peu près 1900.
1900.
Moi, ça aurait fait 33 ans cette année que je suis là-dedans. Je vous dis pas qu'on garde quand même des sacrés souvenirs et même des bons souvenirs. Et
pendant ce temps-là, il y a des Mercedes là qui s'arrêtent, hein. Les acheteurs. Il y a une série de Mercedes là. C'est des gens qui viennent racheter vos outils, hein, le matériel.
Et vos tours.
Nos outils. Nos outils.
Vos outils.
Et les sous, on verra pas la couleur, nous.
Le Chirac, on est licencié.
Bonjour, ça va?
Très bien. On est licencié.
Bonjour, ça va?
Alors oui, bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Ça, c'était le 21 octobre dernier. On y était aussi, on était là. C'est toujours Thierry Scharf qui était là. L'histoire du Nil Vert, de ce groupe Nil Vert, l'un des plus puissants groupes industriels du monde. Ça commence en février 2000. En février 2000, le groupe annonce la suppression de 25 000 emplois dans le monde et de la fermeture d'une petite centaine d'usines, dont celle d'Aubourdin, dans le nord, près de Lille, comme je le disais, où nous nous trouvons. Alors c'est en septembre 2000 la fermeture du site Unilever, 450 salariés menacés, évidemment, ils se mobilisent. Mais apparaît une entreprise qui s'appelle Bilor. Bilor, c'est un producteur espagnol qui reprend l'affaire, mais qui ne garde que 230 salariés sur donc 450. Alors, les 230 qui restent ne sont payés qu'à 70% de leur salaire et l'ancienneté est remise à zéro. Bon, ben, ils acceptent parce que c'est ça ou rien. Et ça se passe comme ça. Mais Bilor procède à des transferts de fonds vers sa filiale espagnole. Près de 3,5 millions d'euros sont ainsi transférés vers l'Espagne. D'où rupture de paiement des sous-traitants locaux qui eux-mêmes doivent procéder à des plans de redressement sociaux. C'est joli ces expressions, un plan de redressement social. Autre conséquence, le groupe Coventry, actionnaire de Bilor, reprend l'entreprise. 50 salariés sont licenciés, des tonnes de lessive sont écoulées vers la Grande-Bretagne. On arrive au 3 mars 2003, Coventry dépose le bilan, 195 salariés sont laissés sans emploi. 21 octobre 2003, ce que vous entendez, c'est là l'historique visite du président Chirac, sur laquelle nous allons revenir. Un moment important de cette histoire, c'est février 2004, où il y a une demande d'enquête parlementaire sur la liquidation de Coventry, et ça c'est en cours, et puis ben nos amis licenciés viennent de nous le dire, les 195 salariés sont accompagnés par un congé de reconversion, financé par l'État, c'est-à-dire financé par nous tous, sans aucune garantie sur leur avenir. Des précisions, encore plus précises si on veut, par l'avocat de ces licenciés têtus et récalcitrants, avocat Patrick Tilly.
1. Le Vert dit « Je ferme ». Je ferme, je veux faire plus de profit. Il le dit d'ailleurs.
Ah oui.
Je veux faire plus de profit, avoir un meilleur ratio de productivité. Vous coûtez trop cher. Voilà. 2. J'ai trouvé quelqu'un pour vous qui va vous reprendre et qui s'appelle Bilor en Espagne, qui fait la poudre pour les grandes marques de distribution, pour Carrefour, Auchan, que sais-je. Avec eux, votre avenir est assuré. Je vous l'ai trouvé, je leur ai fait un plan pour que ça marche, et moi, je m'engage, moi, le Vert, à faire tourner votre entreprise pendant 3 ans, en assurant un tonnage de poudre, et je m'engage aussi à ce que vous ayez des rémunérations pendant cette période aussi élevées que celles que vous aviez quand vous travailliez pour moi.
Et à l'arrivée ?
À l'arrivée, 18 mois après, dépôt de bilan de la société trouvée par Le Vert, qui a avalé une usine plus grosse qu'elle, qui a rencontré des difficultés en Espagne puis en France, qui a pillé une partie de la société française pour essayer de s'en sortir en Espagne, et puis qui finalement a cédé cette société à des Anglais, qui eux-mêmes, en 6 mois de temps, ont à nouveau pillé les actifs de la société de Bourdin et qui a mené cette société à sa perte en très très peu de temps avec une incompréhension totale des salariés qui se sont retrouvés sans interlocuteur patronal. Plus d'ennemis. Ça devient une pratique assez habituelle des grosses sociétés multinationales. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des licenciements, pudiquement. Hein. Il y a 2 ans, il est certain que le licenciement n'avait rien d'économique puisque Le Vert n'avait jamais fait autant de profit que l'année où il a décidé de fermer le site. Ça, c'est absolument certain.
Chirac en prison,
Alors ça, c'est un petit comité d'accueil à Valenciennes, le 21 octobre dernier, 21 octobre 2003. Le chef de l'État rend visite aux habitants, au peuple de Valenciennes. Et qui est-ce qui est là? Eh bien, il y a les licenciés du Nil-Vert. Il y a Pascal Ducrot, qui est un des licenciés. Pascal Ducrot, il est à la CGT, ça fait 2 ans qu'il s'est syndiqué, à l'occasion d'ailleurs de cette affaire. Jusque-là, c'était un gars qui, un peu comme n'importe qui, voilà, qui suit un peu le cours. Et puis, cette affaire l'a mobilisé, l'a motivé. Il s'est syndiqué, et ce jour-là, il est très très motivé, puisque le chef de l'État vient voir les Français, eh bien lui, le Français, Pascal Ducrot, il vient voir le chef de l'État essayer de... Parce que c'est la fracture sociale, il faut essayer de réduire cette fracture sociale, et les micros de la base, j'y suis, étaient là.
C'est Chirac, je crois, là. Ouais, c'est Chirac. Mais encore, on le voit même pas. Il est dans le truc noir, là, 806 noir.
Voilà, il y a une guirlande.
Chirac, on est licencié.
Alors, il y a Jacques Chirac, le président, qui vient de sortir de sa voiture.
Mais dans le Nord, en Bourdin. Monsieur le Président,
alors, il y a la police qui arrive.
On vous embarque.
Comment?
Vous voulez discuter avec le Président?
Il y a Pascal qui vient d'être... qu'est-ce qui se passe là?
Restez là.
Excuse-moi, je fais le travail. Okay. Qu'est-ce que vous faites là?
Il était sur les escaliers, ils l'ont embarqué.
Alors il est à terre?
Non, il n'a rien fait, absolument rien.
Alors le pauvre, il est menotté, il repart menotté par des crânes rasés. Hein.
Non, mais il était la justice. Hein, il était sur les marches et il s'est fait embarquer. Et apparemment, il s'est même fait frapper, quoi. Ça n'a pas été tendre. Hein. Alors pourquoi? On ne sait absolument pas. Absolument pas pourquoi.
Il n'y a pas de violence, c'est ça que je comprends pas. Non, hein. Tant qu'il n'y a pas de violence.
Non, il était là sur les marches, il a tout
Pascal. Il s'est fait embarquer, Pascal.
Drôle de scène, il y a Jacques Chirac, notre bien-aimé président, qui est au milieu d'une foule avec des gens plutôt favorables. Il est tout sourire. Et puis il y a Pascal Ducrot, salarié, bientôt salarié de l'usine, qui est dans une sombre ruelle, mis à terre et menotté par des policiers. Voilà. Alors, ça y est, libéré?
Ah oui. Alors, j'étais menaçant en disant « Monsieur le Président ». Oui. Et donc, ils m'ont traîné dans la rue et ils m'ont menotté et ils m'ont traité comme des chiens. Parce que moi, je dis, mais attendez, les traces de menottes, je vais les avoir. Bah, il dit, attendez, mon chien, quand je le promène, qui tire un peu trop, il y aura des traces aussi. Mais je dis, ouais, voilà, les citoyens français sont traités comme des chiens.
Voilà, un dialogue social un peu rugueux, mais il en faut plus que ça pour que Pascal Ducrot abandonne. Il essaye à nouveau, deuxième tentative de rencontre.
Laissez passer le jeune homme là.
Bonjour, on est dans une région très difficile. On est licencié aujourd'hui dans une entreprise avec les
patrons. Nil-Vert.
Nil-Vert, ah, j'ai 3,5 millions.
Je suis cette affaire personnellement.
Le patron espagnol nous a piqué 3,5 millions.
Oui, je suis.
Et le patron anglais nous a piqué 3,5 millions. Au total, ça fait même 10 millions qu'on nous doit. C'est pour ça qu'on était en difficulté aujourd'hui.
Je connais le problème et je le suis.
Est-ce que vous pensez faire quelque chose pour nous?
Ouais, ça y est, Jean-Paul Deloa demain pour ça.
Alors voilà, il a quand même réussi. Hein. Vous avez entendu le chef de l'État lui dit « Je suis cette affaire personnellement, je connais le problème ». Et on entend la voix de Monsieur Borloo qui dit « Il faut transmettre ça à Jean-Paul Delevoye demain ». Donc Pascal Ducrot et les gars du Nil-Vert sont contents parce que voilà, il a été enfin entendu et maintenant il n'y a plus qu'à attendre quoi, mais c'est quand même ça valait le coup.
pays, le pouvoir de changer de vie. Demain, si nous le voulons, tous ensemble, nous réussirons. La France a besoin d'un homme de courage, de résolution. Votons Jacques Chirac en avant toute la nation.
Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Alors il patiente, Pascal Ducrot et les siens, il patiente, ils ont confiance, hein, le chef de l'État a donné sa parole. De plus, lors de cette rencontre, la conseillère personnelle du président de la République, conseillère en matière sociale, Marie-Claire Carrère, a donné sa carte à Pascal Ducrot, donc tout se passe bien. Enfin, il attend. Il faut attendre. Mais enfin, il attend. Confiant. La confiance se réduit un petit peu, s'émiette un petit peu, mais il est confiant. Et nous lui demandons de ses nouvelles. Le 4 février dernier, nous appelons Pascal Ducrot pour savoir où il en est, où ils en sont.
Alors Pascal, quoi de neuf depuis l'entretien avec le président ?
Quoi de neuf ? Bah pas grand chose, hein, justement. Enfin pas grand chose dans le bon sens. Ça a été plutôt la visite d'un huissier pour une demande d'expulsion, alors que on n'a jamais occupé l'usine parce que le motif c'était ça apparemment.
Une visite d'un huissier, mais quand ?
Ben le 2-3 jours après.
2-3 jours après ?
Oui. Oui, c'est-à-dire le, à mon avis, le 23, je crois, du jeudi.
Mmh.
Et donc avec une demande expressément de par le biais de malfaisant, le liquidateur.
Malfaisant.
Ouais.
Bon, et on c'est a véridique ça, malfaisant, c'est son nom. Hein.
C'est son nom, hein, c'est son nom, hein, son nom.
Donc Chirac, malfaisant, l'huissier.
Un huissier, c'est un peu, je sais pas si je peux le dire, mais il s'appelle Charlot.
D'accord. Ouais. Oui, oui, oui. Et tout ça n'est pas un gag, malheureusement.
Non, non. Non, non, on a aussi affaire à enfin, notre nom marrant comme Turlute, qui est. On n'y peut rien, quoi, mais on l'invente pas. Quoi.
Qu'est-ce qu'il fait, Turlute?
Il travaille au tribunal de commerce.
Bon, voilà, alors, on perd pas patience, mais on essaye de savoir un petit peu comment ça avance on parle évidemment on dénonce ces méchants patrons, on parle de patrons voleurs, de voyoucratie, mais d'un autre côté, dans l'autre camp, c'est-à-dire celui des salariés, en l'occurrence des licenciés, c'est pas blanc blanc. Le 18 février, les licenciés sont placés en garde à vue. L'un de ces terroristes nous parle, il s'appelle Pascal Ducrot. Allô, allô, Pascal ?
Oui.
Raconte-moi ce qui s'est passé.
Ce matin à 7h30, 4 personnes sont rentrées chez moi pour faire une perquisition de haut en bas. Et puis ils m'ont emmené parce qu'il y avait une mise en garde à vue prévue.
Prétexte, motif ?
Les chefs d'accusation, c'est casse, vol dans l'usine et manifestation. Quoi.
D'accord. Alors comment tu interprètes ces poursuites et ces pressions ?
Bah, je vois que pour nous, c'est facile d'inquiéter Et je vois que de l'autre côté, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas les Bilor, les Coventry, on ne sait pas qu'est-ce qui, où est-ce que ça en est, quoi. Donc pour nous, c'est facile, on vient chez nous, nous on a une adresse, on a une identité, donc c'est facile de venir chez nous, quoi. Et donc ils font le côté le plus facile. Et ils nous reprochent d'avoir manifesté dans les magasins, que les magasins d'Auchan Anglo, par exemple, réclament 14 000 euros de préjudice.
Qu'est-ce que vous aviez fait dans les magasins?
On a sorti simplement les produits de Levert des rayons.
Tout ça, c'est à la demande du liquidateur, hein?
Ah, tout à fait, ouais.
C'est toujours Monsieur Malfaisant.
C'est Maître Malfaisant, oui.
Maître Malfaisant, liquidateur.
Liquidateur, oui.
Bon, Pascal, courage, ouais. Courage.
Merci.
Salut,
merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà le résumé des chapitres précédents, et puis nous voilà au 26 mai 2004, c'est la vente aux enchères du matériel de l'usine, et les licenciés, parmi lesquels Pascal Ducrot, vient assister à la vente qui se fait, on va l'entendre, aux dépens de certains, mais c'est à cause des lois économiques dans ce monde de requins.
Pardon monsieur, excusez-moi, bonjour, je peux vous demander pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Moi je viens pour la vente. Donc éventuellement s'il y a du matériel qui m'intéresse.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous intéresse comme matériel?
Nous on est négociants de matériel de réemploi.
De réemploi, c'est-à-dire?
D'occasion. Donc on achète régulièrement dans toutes les ventes publiques de toute la France, l'étranger.
Donc toutes les liquidations, comme ça, toutes les entreprises fermées font votre affaire?
Ou des départements arrêtés, etc. etc.
C'est une grosse vente là quand même, non?
C'est une vente classique, hein. Il y en a un peu partout comme ça en France. Hein. Finalement, tout ça, c'est une forme de recyclage. Malheureusement, on dépend de certains.
Oui, parce qu'il y a de la casse quand même là. Vous voyez, les types sur le carreau là.
Voilà, ouais. Ça a toujours été depuis des siècles. C'est pas toujours justifié, mais c'est les lois économiques modernes. Malheureusement, dans le contexte européen, on sait que beaucoup vont s'installer en Tchéquie, en Hongrie, etc. Dans les...
Eh oui, c'est ça, ça externalise à l'étranger.
Voilà, mais ouais. Il faut se dire que c'est l'avenir. On vit dans un monde de requins. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein.
Ouais.
C'est comme ça, c'est la vie actuelle, elle est comme ça.
Et vous, vous barbotez là-dedans, vous?
Faut pas être hypocrite, non. Nous, on vient, il y a une vente. C'est pas nous qui l'avons provoqué.
Non, mais bon.
S'il y a un intérêt, on rachète le matériel. Finalement, on participe à la vie économique en ce sens que des entreprises, surtout les petites et moyennes, qui n'ont pas la capacité financière de s'acheter du neuf, parce que c'est bien trop cher, eh bien, indirectement, finalement, bon, on n'est pas des philanthropes, hein, on est des commerçants comme tout le monde, mais on...
Et ça marche le business, ouais.
Ça marche, tout est relatif, hein. Comme on est connu, eh bien, les gens viennent vers nous, nous on prend une marge, et puis voilà, et puis tout le monde est content.
Le Chirac, on est licencié.
Bonjour, ça va?
Très bien. On est licencié.
On va y aller. Hein.
Vous allez où?
On va rentrer dans l'usine, on va voir ce qu'on peut acheter.
Oui, bon, bah écoutez, d'accord.
Il n'y a pas de raison que nous on...
Ouais, ouais, mais vous n'allez pas vous faire jeter là?
Bah, on verra.
Bon.
Ce sera la deuxième fois.
Bon, alors il y a le petit groupe d'anciens salariés qui rentre là. Le poste du gardien. Bon, voilà. Tout se passe bien.
L'ancien pointage. Là, il y avait des files de gars le soir. On appelait ça la danse des canards.
Voilà,
parce que quand on passait, on était tous à applaudiquer les uns derrière les autres. On voyait les têtes qui balançaient.
C'était les pointeuses.
Ouais, c'était les pointeuses.
Il était 21h, les derniers qui sortaient étaient 21h20, au moins.
Ouais. Ah oui, il y avait la course pour être dans les premiers au pointage. C'était long. Voilà, et là on voit l'usine donc dans son ensemble.
Et avant c'était beaucoup plus beau que ça, hein. Il y avait l'herbe qui était coupée à ras.
Et alors parmi vous là, qui est-ce qui a retrouvé du boulot là dans le groupe là? Vous?
Moi j'ai pas retrouvé du travail, non.
Vous?
Il y en a, non, non plus.
Vous?
Non, non plus.
Rien. Vous?
Non.
Non, non, non. Et vous?
Pareil, 50 ans, pas de travail.
Pascal?
Ah non, moi je suis à la recherche d'un emploi. Ouais,
pendant ce temps-là, il y a des messieurs qui prennent des notes là. Avec leur Mont Blanc.
Avez-vous trouvé votre bonheur, MCE?
On a vu du matériel, on a vu les cuves, hein, qui nous intéressent. Et puis bon, c'est une grosse industrie quand même. Hein.
C'était leur matériel, c'était l'ancien salon.
Oui, moi j'imagine. Oui, oui.
32 ans.
Je comprends bien la difficulté que vous avez, hein, de de revoir les choses comme ça, de voir cette voiture aux enchères, à mon avis, ça doit être...
Non, c'est clair que vous n'y êtes pour rien. Ouais. Vous n'y êtes pour rien, c'est clair, hein, mais ça, on a un petit pincement au cœur.
Ouais, bah,
un petit pincement au cœur, mais bon.
Oui, vous êtes chef d'entreprise, vous, hein?
Oui, mais c'est vrai que la morale de l'histoire, elle n'est pas... pas très juste. Partout, il y a des gens bons et des gens des salauds. Hein. Mais bon, le privé, l'argent hein, privé, c'est on vend, on achète. C'est pas de votre faute. C'est le prix de revient qui gère tout. Une usine en Allemagne, si elle est plus moderne qu'ici, elle a un prix de revient plus bas. C'est pas de votre faute, ça.
Nous, l'usine ici, il y avait des bénéfices. Mais alors, je peux vous dire... ah oui, là, c'était une usine qui faisait des bénéfices. Et en hausse importante. Mais l'actionnaire en voulait plus encore.
Ouais.
Unilever, il avait annoncé un plan de 25 000 suppressions d'emplois. Vous vous rendez compte? 25 000 suppressions d'emplois dans le monde.
C'est vrai.
Il y a encore 2 ans.
C'est la mondialisation, ça.
Mais nous, on fait plutôt un bilan différent. C'est que on nous a demandé pendant des années des efforts. Moi, sur 20 ans que j'ai travaillé dans cette usine, j'ai connu 6 plans. Dans ce qu'on appelait les plans sociaux. En fait, les plans sociaux, c'était quoi? C'était des suppressions d'emplois.
Je connais ce problème. En textile, je le vis tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas drôle, hein, de dire, si on licencie, je peux vous dire, hein, on est contraint parce qu'il y a la guerre internationale, la Chine, la libération dans un an. Toutes les frontières sont ouvertes en textile. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et je peux vous dire, un droit dans les yeux, hein, qu'un patron qui se respecte, qui fait du licenciement, c'est pas pour le plaisir. Hein.
Oui. Un patron qui licencie, c'est bien parce qu'il doit satisfaire quelqu'un qui lui demande.
Quand on licencie, c'est parce qu'on est dans le rouge, hein, et qu'on peut pas continuer comme ça. Ou alors c'est toute la société qui va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
L'argent. Vous faire comprendre, si c'est que quand une entreprise
patron,
a des difficultés,
si l'argent du patron il a volé, il est critiquable.
A rarement des difficultés, alors que les ouvriers, ils en ont toujours.
Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est l'économie qui gère et une entreprise doit gagner de l'argent. Alors c'est pas pour en foutre plein les fouilles aux actionnaires comme vous l'avez dit. C'est pour que l'entreprise soit viable, qu'elle se développe, qu'elle investisse. Moi, je parle de l'entreprise. Après la mondialisation. Vous et moi, on ne peut pas l'arrêter. Hein. C'est...
On verra.
Et on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau.
Alors,
c'est l'entreprise.
Il y en a qui sont dans la soute. Il y en a qui sont dans un transat sur le pont supérieur.
Et encore, il faudrait savoir qui est inférieur et supérieur, parce que l'argent... Enfin bon.
Allez, bon courage. Hein.
Au revoir.
Le numéro 435, une bec basculante. 100. 50 preneurs, bienvenue à 50, une fois de fois 50 au 519. Le numéro 436, Palette Fenwick. 100.
Un petit pincement au cœur. Un petit pincement au cœur, voilà ce qu'éprouvent les licenciés d'Unilever, de Bourdin. En voyant leur matériel, les outils, les machines dispersées dans cette vente aux enchères. Mais, petit pincement au cœur, mais on veut absolument sortir de cette histoire la tête haute avec ce dialogue où ce chef d'entreprise rappelle l'évidence, c'est que c'est l'économie qui gère, on n'y peut rien, ni vous ni moi. Il y en a un qui a dit, on verra. C'était peut-être bien Pascal Ducrot.
T'arrives pas à te projeter là dans une nouvelle carrière professionnelle?
Non, j'arrive pas. Nous, on essaie de crier haut et fort l'injustice qui s'est passée sur notre histoire. Et je pense qu'on peut pas projeter un avenir si le présent et le passé n'est pas réglé.
Soldé, quoi. Tu veux aller jusqu'au bout, quoi.
Ah oui, j'irai jusqu'au bout. Ça, c'est clair.
Et c'est quoi aller jusqu'au bout?
Jusqu'au bout, jusqu'à temps que un tribunal dira les salariés de chez Coventry ont été trahis, on leur a menti et il faut leur reconnaître un préjudice. À partir de là, on pourra dire, c'est un peu comme les personnes qui se font violer et tant qu'il n'y aura pas eu un jugement du tribunal, ces personnes-là ne peuvent pas vivre correctement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous reconnaisse notre préjudice. Et pour l'instant, il n'y a personne qui veut reconnaître ce préjudice. On est des victimes du capitalisme. On entend que ça, des entreprises qui ferment. Metal Europe, quand même, c'est quand même des patrons qui sont sauvés avec la caisse. Et ben, nous, on a été traités de la même façon. Ils sont partis sans laisser ni l'adresse, ni l'argent qu'il y avait dans la caisse. Et ça, c'est inadmissible. on vient cambrioler chez vous, ben, on considère qu'on est des victimes. Ben là, c'est le même cas. On vient nous prendre notre travail. On nous a pris notre travail, et pas notre travail question argent, mais question fonction. On nous a retiré, on nous a tout retiré.
Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Je suis cette affaire personnellement. Je connais le problème. Il faut en parler demain à Jean-Paul Delevoye. C'est Monsieur Borloo qui disait ça. Mais les phrases précédentes, je suis cette affaire personnellement, je connais le problème, sont sorties de la bouche du chef de l'État. Et oui, donc ce 21 octobre à Valenciennes, donc Pascal Ducrot, vous avez vu, bon, il espère, il a confiance, et je vous rappelle un détail très important, c'est que Marie-Claire Carrère-Gé, conseillère du président de la République en matière sociale, a donné sa carte à Pascal Ducrot, en présence d'ailleurs de la fille du président de la République, Claude Chirac, donc tout à fait conscience. Alors, Pascal, vous avez compris, c'est un coureur de fond, c'est un têtu qui ne manque pas de mordant.
Bonjour.
Oui, bonjour madame, je suis bien au Palais de l'Élysée.
Oui.
Est-ce que Marie-Claire Carrère-Gé est là, s'il vous plaît?
Elle n'est pas là cet après-midi, elle sera là demain.
Ah, d'accord. Est-ce que je peux rappeler demain?
Bien sûr.
Au même numéro?
Oui, tout à fait. Quel est votre nom?
Pascal Ducrot.
Monsieur Pascal Ducrot.
De la société Coventry, à Haubourdin. Et pour vous situer, oui, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Valenciennes,
oui,
lors de la présence de Monsieur Chirac, donc dans la ville de Valenciennes.
D'accord.
Et j'avais expliqué ma situation, et on devait avoir des nouvelles, mais depuis, ça fait au mois de novembre, je pense, qu'il était à Valenciennes, et ça fait donc 8 mois que j'ai pas de nouvelles, donc j'aimerais avoir...
Et elle avait eu un dossier vous concernant...
Concernant la société, oui, oui.
D'accord, très bien. C'est noté, monsieur.
Je vous remercie.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir, madame.
Secrétaire d'Incarger, bonjour.
Oui, bonjour madame, c'est toujours Pascal Ducrot. Et il vient à l'esprit qu'on avait contacté aussi monsieur Mordant. Je ne sais pas si je pourrais avoir monsieur Mordant.
Mordant?
Oui.
À la présidence?
Il était conseiller de monsieur Fillon.
Ah non, mais c'est pas chez nous du tout, hein.
Oui, je sais, mais elle avait transmis des informations à notre sujet, à monsieur Mordant.
Ah oui, bah, il faut que vous contactiez le cabinet de monsieur Fillon, donc.
Oui, d'accord.
Voilà.
Je vous remercie, madame.
Au revoir.
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, bonjour. Toutes nos lignes sont occupées. Nous vous prions de patienter quelques instants. Un opérateur va vous répondre.
Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur. Est-ce que je peux avoir monsieur Mordant, s'il vous plaît?
Monsieur qui?
Mordant.
Monsieur Mordant?
Oui.
Maire,
Oui, ça doit être ça, oui.
D.A.N.?
Oui, un conseiller de monsieur Fillon. C'était à l'époque où monsieur Fillon était au ministère de l'Industrie. Oui, c'est notre dossier qui a suivi, oui.
Oh, oui.
Et le ministère de l'Emploi, vous avez son numéro? Bonjour madame, est-ce que monsieur Mordant est là, s'il vous plaît?
Monsieur Mordant ou monsieur Normand?
Mordant.
Comment?
Mordant.
C'est toujours le ministère de l'Emploi.
Oui, bien sûr, monsieur.
C'est nous, là, monsieur. Non. Il était avant avec monsieur Fillon, mais oui, là, depuis le remaniement.
Oui.
Alors, écoutez, je vais vous mettre en relation avec le secrétariat pour savoir où c'est que vous pouvez le joindre, monsieur. Ne quittez pas l'instant.
Bien, merci.
Allô?
Oui, bon. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
J'aurais voulu avoir monsieur Mordant, s'il vous plaît.
Monsieur Mordant, là, attendez, vous n'êtes pas au bon numéro déjà. Je vérifie s'il fait encore partie de notre cabinet. Ne quittez pas, merci. Allô ?
Oui.
Oui, on me dit que monsieur Mordant est parti à Matignon. Ah. Donc je vais vous donner le numéro du standard. Matignon, bonjour.
Bonjour madame, est-ce que je peux avoir monsieur Mordant, s'il vous plaît ?
Ne quittez pas. Monsieur Paul Mordant, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, est-ce que je peux avoir monsieur Mordant, s'il vous plaît ?
Il est en ligne tout de suite, qui le demande ?
C'est Pascal Ducrot de la société Coventry.
Pascal Ducrot ?
Oui, la société Coventry à Aubourdin. Il avait suivi notre affaire au temps du ministère de monsieur Fillon.
D'accord. Écoutez, la société est en ligne, on peut vous rappeler à quel numéro ? Bien monsieur, écoutez, on vous rappelle.
Merci.
Écoutez, monsieur Mordant me fait dire qu'en fait, bon, bien sûr, il ne s'occupe plus de ce dossier. Et je vais vous donner les coordonnées de monsieur Huret, qui s'en occupe donc, qui prend le relais.
D'accord, monsieur Huret, je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Monsieur Chirac, on est licencié.
Bonjour, ça va?
Très bien.
On est licencié.
Je me nomme Merci Jean-Marc. J'ai entré dans les établissements Le Vert le 5 avril 71. Donc cette année, ça aurait fait 33 ans d'ancienneté. Et voilà, on est arrivé à un point qu'on a été licencié. Ils ont fait des bénéfices, ils nous ont pris, ils se sont servis de nous. Bon, ils nous ont lâché un âge comme moi qui est vraiment critique. Puis bon, bah, nous, on n'est même plus sur le marché de l'emploi parce qu'il n'y a plus personne qui veut de nous. Je vous dis, je vais avoir 55 ans au mois d'août, je vois pas un entrepreneur me prendre, faire une formation, et puis il sachant très bien que 2-3 ans après, c'est la retraite, quoi. Donc il va pas s'emmerder avec nous.
300, 400, 500, 600, 700, fini, 700 numéro.
Voilà, là on est en train de vendre les machines, mais les hommes valent moins. Les hommes valent moins que les machines. Vous avez vu, il y a des cotes qui montent. C'est intéressant de racheter les machines. Les hommes, en fait, plus personne en veut.
Bernard Schuster, 52 ans, 30 ans donc de travail ici dans cette usine. J'ai passé la plupart de mon expérience professionnelle dans un laboratoire de développement. J'étais chimiste.
Alors au jour d'aujourd'hui, vous en êtes où ?
En congé de conversion et à la recherche d'un emploi, si tant est qu'on peut retrouver un emploi effectivement à 52 ans.
Pour l'instant, vous avez rien retrouvé.
Comme chimiste. Non, puisque ma qualification, c'est quand même chimiste et aujourd'hui, dans la chimie, il n'y a plus grand-chose dans la région. Donc, il n'y a pratiquement aucun espoir de retrouver du travail dans la région.
Alors, qu'est-ce que vous allez devenir ?
On sait pas, je sais pas pour l'instant. Bon, on est en train de réfléchir à savoir ce qu'on peut faire, dans quelle voie on peut se reconvertir. Le problème, c'est qu'à 52 ans, on se reconvertit peut-être pas si facilement que ça.
Eh oui.
Ma femme travaille pas, il me reste trois enfants en charge, dont deux dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on en est là. Le problème, c'est une fois qu'on a envoyé sa candidature à toutes les entreprises potentielles aux environs et que vous n'avez aucune réponse, que voulez-vous qu'elle fasse sa cellule de reclassement ? On peut rien faire.
Jean-Pierre Graffin, 45 ans, chez Le Vert depuis 20 ans. Moi, j'ai commencé comme ouvrier de production et j'ai terminé en fin de carrière, enfin, si on peut dire en fin de carrière, avant que l'usine ferme, j'ai terminé au labo en faisant des formations internes.
Aujourd'hui, vous en dites tout.
Aujourd'hui, on m'a fait comprendre à la cellule que bon, c'est pas vraiment un boulot parce qu'il n'y a pas de diplôme, donc faut chercher plutôt dans le métier prioritaire. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai préparé le diplôme de CCA qui permet d'être ambulancier. Donc j'ai fait même une préparation au concours parce que c'est un métier prioritaire. Donc on a les aides, tout ça. Donc j'ai tout fait. J'ai tout passé. En fin de compte, j'ai eu mes résultats. En fait, j'ai eu 17 à l'oral. Et on m'a expliqué que c'était pas suffisant parce que on était 300 candidats pour 30 places. Donc je trouve que c'est débile quoi, comme système. On est en formation, comme ça, bon, à la limite, on n'est pas chômeur vu qu'on est en formation. Et eux, ils rétablissent leur système de cellule emploi. Et le résultat, ben, ça fait que maintenant, je me retrouve en fin de congé de conversion. Tout compte fait, ben, quand je vois dans mon secteur, enfin, dans mon quartier où j'habite, des gens qui sont défavorisés, au début, je disais, tiens, eh ben, je crois que maintenant, ben, je vais devenir comme eux. Et puis, à la limite, c'est même eux qui vont s'en sortir le mieux, parce que quand on écoute les pouvoirs publics, ils vont augmenter ci, ils vont augmenter là, mais sauf pour les pauvres. Sauf pour les pauvres, sauf pour les pauvres. Comme je suis plus très loin d'être pauvre, à 6000 vols par mois, ben, ce sera vite fait, hein.
Alors, je m'appelle Alain, je suis ici depuis 1971. J'ai commencé comme ouvrier, j'ai terminé comme comptable.
Quel âge ?
54.
Mmh. Vous en êtes où, là ?
Actuellement.
Aujourd'hui, là.
On est avec la cellule de reclassement, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Ou alors, il faudrait peut-être de la mobilité, mais à 54 ans, je me vois mal repartir à zéro.
Votre femme travaille ?
Non.
Vous avez des enfants ?
4. C'est pour ça que je ne veux pas partir de la région.
Alors financièrement, vous allez faire comment ?
Je ne sais pas. Je réduis tout. Au maximum. On garde que les choses essentielles.
Alors, ça veut dire vous partez en vacances, par exemple ?
Ah non, non, non. Non, ça c'est fini. Ça c'est une honte. On a parfois envie de crier tellement c'est... Moi j'ai fait des cours du soir, j'ai toujours travaillé dans ma vie... Et là, je n'ai plus rien à voir. Je recommencerai à zéro. Que c'est propre. Encore. Ça me fait mal aux tripes.
Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Alors, ils ont patienté, Pascal Ducrot a patienté, on lui a dit de rappeler dans une semaine après, il rappelle, je vous rappelle, pour quelle raison il rappelle, c'est qu'il a rencontré le président de la République lors de sa visite à Valenciennes, qui lui a promis qu'il allait prendre les choses en main, qu'il connaissait le dossier, il a eu de sa main propre la carte de Marie-Claire Carrère, conseillère du président de la République. Il a essayé d'appeler un certain monsieur Mordant qui a changé entre temps de ministère, mais c'est monsieur Huret qui désormais est en charge de ce dossier. Et donc, Pascal Ducrot rappelle.
Allô ?
Oui, bonjour madame. Pascal Ducrot, je vous ai appelé mercredi.
Oui.
Est-ce que Marie-Claire Carrère, j'ai assez
de
plaît.
Oui, on lui a fait part de l'appel et justement, faut que je recherche le document que vous lui aviez fait passer. Parce qu'elle nous en a reparlé et faute de temps, parce que là on est sur l'assurance maladie, je ne lui ai pas ressorti le dossier. Donc vous lui aviez remis personnellement lors du déplacement à Valenciennes ou vous nous l'aviez adressé ?
De quoi donc ?
Le courrier.
Non, on n'avait pas de courrier, j'ai pu la rencontrer à Valenciennes.
Oui.
Et puis.
Alors attendez, qu'est-ce qui avait été noté ? C'est pas moi qui avais eu l'appel. Et alors elle m'en a parlé.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Il vous a adressé un dossier au mois de novembre dernier. La personne avait noté ça.
J'ai rien.
Est-ce que vous nous avez adressé quelque chose, vous ? Non, vous lui avez remis lors du déplacement, c'est tout. Vous l'aviez rencontré.
On l'avait rencontré.
D'accord.
Et on a.
Et vous souhaitez la voir à quel sujet alors ?
Eh ben pour savoir la suite de notre histoire en fait.
De quelle histoire ? Alors donc vous lui avez remis un dossier, vous lui avez parlé de quelque chose.
On lui a expliqué notre situation. Et ensuite, Monsieur Chirac avait promis qu'il allait s'occuper de notre dossier.
Alors attendez, je vais.
Téléphone.
Oui, je vais le rappeler, j'ai la mémoire, c'est dossier sur quoi exactement alors ?
Sur Coventry à Aubourdin.
Sur ?
Coventry.
Pour m'appeler ?
Coventry. Aubourdin.
Et donc cette fois-là, on avait pu, j'avais pu.
Ah oui, mais c'est pas une entreprise qui ferme ou quelque chose comme ça, non?
Tout à fait. C'est une entreprise en liquidation. Oui.
Ouais, il me semble bien qu'on a été effectivement. Alors c'est sur Covenry au Bourtin, d'accord.
Oui. Et donc j'avais rencontré Mme Carrergé avec la fille de Monsieur Chirac en expliquant notre situation et je me souviens que j'avais pu donc croiser Monsieur Chirac pour lui demander comment il allait faire pour récupérer toute cette.
Écoutez, vous nous avez laissé votre portable, donc je vais reparler hein, de votre appel.
Secrétariat de Monsieur Ravalli, Huré, bonjour.
Monsieur Huré, bonjour. Merci.
Mais je vous en prie.
Alors, un instant, s'il vous plaît, vous êtes
Pascal Ducrot.
Pascal Ducrot.
Oui.
Un instant. Hein? Oui, excusez-moi, Monsieur Huré est à l'extérieur.
Ah. Ben, je l'appelle parce que pour la suite de notre affaire de chez la société Coventry au Bourdin. Oui, bonjour,
alors, par contre, je ne suis pas sa secrétaire.
Marie-Claire
je la remplace, elle est partie en poste.
Excusez-moi, je peux avoir votre nom?
Oui, Pascal Ducrot.
Vous la rappeliez d'ici un quart d'heure.
D'accord. D'accord.
Ce sera plus simple.
Vous avez appelé au sujet d'un dossier, vous l'avez rencontré à Valenciennes.
Oui, c'est ça.
Oui, allez, vous êtes noté sur la liste des appels.
Oui, et j'aimerais. Absolument, la discuter avec elle aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça va être difficile.
Pour quelle raison? Excusez-moi.
C'est direct au moins.
Bah oui.
La raison, c'est qu'elle est en réunion avec le président une bonne partie de l'après-midi sur la sécurité sociale. Voilà.
Ah bon.
Il y a des urgences, vous savez quand même.
Oui, ben, et je suis désolé d'être un peu direct comme ça, mais c'est les salariés qui veulent absolument depuis un moment avoir des réponses à ce niveau-là.
Oui.
Et donc excusez-moi d'être direct, mais j'aurais aimé s'entretenir avec Mme Carrergé au téléphone.
Non, aujourd'hui vous l'aurez pas de toute façon. Hein. C'est certain parce que moi je la revois à 19h à son bureau, donc.
Bon, enfin mercredi j'ai pas pu la voir non plus. Oui.
Allô?
Oui, bonjour madame.
Bonjour.
Pascal Ducrot, est-ce que je peux la voir?
Donc elle a un emploi du temps assez chargé. Hein.
Vous l'avez rencontré, vous savez.
Fin d'octobre. Et c'est pour ça que les salariés vont être un petit peu exaspérés dans cette attente.
Moi, la seule chose que je peux faire, c'est lui transmettre encore votre message, puisque ça a déjà été transmis, et marquer que c'est un rendez-vous.
Je veux qu'on fasse un rendez-vous, je peux pas
mercredi, je vais essayer. Je suis navrée, il attendait la possibilité vers 17h.
D'accord.
Voilà.
Et j'essaie d'appeler vers 7h.
Pour tout Jacques Chirac, maintenant président, la France doit montrer le chemin de la liberté. Liberté de travailler, de mieux vivre dans chaque foyer.
Numéro 453. Le numéro 433, une peseuse. 434. L'ensemble du matériel d'un atelier de mécanique établi armoire et taux.
Tu prends des notes, Pascal?
Ouais, pour voir un peu à combien ça peut être vendu, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs hein, quand même.
500, les deux employeurs. 500. Bienvenue à 500, 600. 500.
Enfin, ça me rend quand même malade. Hein.
Ouais.
Ça nous rend malade de voir l'usine comme ça, bradée, vendue.
Ça, c'est nos machines, ça, quand même.
On a travaillé pas mal d'années là-dessus, et on les voit partir comme ça. C'est terrible, terrible. Psychologiquement, c'est très dur.
Enfin, sur des diapositives, en plus, là.
Ouais, c'est... Ah, ça n'a pas de nom. On sait que maintenant, là, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais c'est dur, très dur.
700, 800 ici. C'est bien, 800. 800 et
3. Quand c'est la fin, c'est tout. Hein.
Il n'y aura pas de repreneur. Hein. Là, il n'y aura pas de repreneur, c'est clair. Hein.
On savait qu'il n'y avait pas de repreneur, mais bon, de le savoir et de voir partir l'usine comme ça, c'est deux choses différentes. Pour quelqu'un qui a travaillé comme moi 20 ans dans les murs, c'est dur, très dur. Mais bon, on n'a pas le choix. On est obligé de s'adapter. Et d'accepter surtout. Voilà. Triste France. Merci, monsieur le gouvernement, droite ou gauche. De toute façon, les deux n'ont rien fait pour nous. Alors, de toute façon, on n'a plus que nos yeux pour pleurer.
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 47. Enfin, je vais les avoir ici dans peu de temps.
Et là, vous en êtes où, là, aujourd'hui?
Formation dans le métier de la santé, mais bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de... Mais c'est pas le fait de retrouver du travail, c'est vrai que c'est primordial actuellement. Mais surtout, c'est de la façon que ce qui s'est fait là, ce qui s'est fait, c'est inhumain, ça n'a pas de nom. C'est ça qui nous restera toujours en travers de la gorge. Même si on trouve du travail par la suite, on aura toujours eu un goût amer dans la bouche d'avoir été manipulé et roulé. On se demande si c'est pas le MEDEF qui gouverne la France. Hein.
453. Le numéro 433, une peseuse. 434. L'ensemble du matériel de l'atelier de mécanique établi armoire et taux. 300. L'ensemble du matériel de l'atelier de mécanique. 300. 200. Le numéro 435, une peigne basculante. 100. 50. 50, preneur. Bienvenue à 50. 50. Une fois de moi, 50.
En travers de la gorge, mais la tête haute, quelque chose me dit que ce combat n'est pas fini. Merci à tous, merci à Pascal Ducrot, à l'avocat Maître Tilly, à Jean-Pierre, à Alain, à France Bleu Nord, à Cécile Bidot de France Bleu Nord. Plus d'informations sur tout ça, sur le site de là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Michel Thomas. Koyen Guyen, c'est la musique. Pascal Hupp, Pascariello, c'est notre assistante. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37. 01 56 40 37 37. C'est Christophe Humbert qui en a la lourde charge. C'était un reportage de Thierry Scharf. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Demain, on va aller se balader avec Claire Otter en Normandie, comme tout le monde. On va peut-être vous raconter des histoires un peu différentes que celles qui se racontent passionnément ces jours-ci, autour évidemment du débarquement. Rassurez-vous, nous n'avons pas d'interview exclusive de George Bush, on aurait bien voulu. On aura peut-être des nouvelles d'un autre front en Italie. On va partir bientôt en Italie et on aura peut-être des nouvelles de la visite justement de George W. Bush dans la péninsule italienne.
Vague. 444, 445.
Non, vous souhaitez un rendez-vous, monsieur?
Non, au téléphone, on s'était donné rendez-vous parce que Mme Carrier n'était pas là vendredi.
Mais je vous entends mal, monsieur. Oui, elle n'était pas là vendredi, donc vous aviez convenu d'un rendez-vous téléphonique?
Voilà, c'est ça.
Bah oui, mais là, elle est en entretien, donc je ne peux absolument pas la déranger, monsieur. Elle connaît l'objet de l'appel?
Oui, bien sûr. Bah, je m'étais expliqué vendredi sur l'objet de l'appel. D'ailleurs, il me semble que c'était vous que j'avais eu. Par l'occasion.
Et ça concerne quoi?
La société Coventry.
Ah oui,
à Aubourdin.
Oui, donc...
Et on m'a conseillé de rappeler vers 17h.
Vers 17h, bah oui, mais malheureusement, elle a un rendez-vous impromptu.
Présidence de la République.
Donc, mais ça, malheureusement, monsieur, on ne maîtrise pas ce genre de rendez-vous. Donc, je vais lui en reparler. C'était au sujet de suite au
président de la République.
Du président à Valenciennes.
Nous vous prions de bien vouloir patienter.
Vous aviez rendu compte du problème. Allô, avec Claude, hein, si j'ai bonne mémoire, allô, c'était ça. Allô. Donc, bah, écoutez, elle vous rappelle, monsieur, effectivement, vous avez laissé vos coordonnées. Je vais lui faire part de votre appel. Hein.
Depuis mercredi, j'avais laissé...